Radio Kapi. Oh, Kapi. Journal présenté par Jocelyne Moussaou Pondé.
Élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Les candidats élus mardi aux primaires organisées par l'Union Sacrée avec les députés provinciaux en séjour à Kinshasa, elles seront présentées comme tickets gagnants. 17 500 enfants sortis des groupes armés assistés depuis 2017 en RDC dans le cadre du processus de sortie et de réintégration de cette catégorie d'enfants. Déclaration du représentant de l'UNICEF en RDC hier lors de la conférence de presse des Nations Unies à Kinshasa. Crispin Bindoulé, député national de l'Union Sacrée, élu du Nord Kivu, est notre invité. Il est l'un des signataires de la motion de défiance contre le ministre de l'Économie. Bonjour à tous. D'abord, cette information, le réseau des associations des professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo, RAPUCO en sigle, annonce qu'il relance la grève sèche et générale à partir d'aujourd'hui, jeudi 24 mars, sur toute l'étendue du territoire national, et ce, dans tous les établissements d'enseignement supérieur et universitaire public. Selon le communiqué rendu public hier dans la soirée et signé par 16 organisations membres de cette plateforme, je cite, la grève ne sera suspendue qu'après l'issue heureuse des travaux de la commission paritaire. Fin de citation. Dans un tweet officiel du ministère de l'ESU daté de mardi 22 mars, le ministre Muindo Zangi annonce les débuts des travaux de la commission paritaire entre le gouvernement et le banc syndical du personnel de l'enseignement supérieur et universitaire pour demain vendredi 25 mars à Kinshasa, au quartier Bibois, dans la commune de Lancélé. Préparatif des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les provinces dirigées par les intérimaires, le présidium de l'Union Sacrée a organisé des préliminaires avec les députés provinciaux concernés en séjour à Kinshasa. Des candidats qui ont été élus le mardi aux primaires par les députés membres de cette plateforme politique seront présentés comme tickets gagnants aux prochaines élections. Cependant, ces choix sont loin de faire l'unanimité parmi les députés provinciaux de l'Union Sacré. Michel Kifindangoy.
Dans une déclaration à la presse, les députés de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, membres de l'Union Sacrée, s'opposent au choix soutenu par l'UDPS, appuyé par les députés membres du FCCI. Ils plaident pour l'intervention du chef de l'État afin que leur choix de candidat gouverneur soit préservé. Alexis Kayembe, vice-président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika.
Un membre du présidium a soutenu une candidate dont la base électorale est constituée exclusivement des députés provinciaux du FCC, en conséquence que les députés provinciaux de l'Union Sacrée ne sont pas prêts à adhérer à la décision contraire au résultat de vote des consultations.
Pendant ces temps, le président de l'Assemblée provinciale du Congo central rejette toute allégation faisant état de l'imposition par le présidium de l'Union Sacrée de la candidature de Guy Bandou au poste de gouverneur. Jean-Claude Vouemba.
Je mets à défi qui que ce soit qui viendra me montrer qu'il y a eu corruption auprès des députés provinciaux, Jean-Claude Vouemba laisserait sa place. Le premier ticket qui est sorti des urnes, c'est le ticket du docteur Guy Bandou avec 26 voix.
Seules les élections prévues pour le 6 avril prochain pourront départager tous les candidats gouverneurs des 14 provinces concernées.
Pendant ce temps, la commission électorale nationale indépendante, conduite par son président Denis Kadima Kazadi, et une mission des Nations Unies conduite par Simon-Pierre Nanité-Lamio, directeur adjoint à la division de l'assistance électorale du département des affaires politiques et de consolidation de la paix, ont échangé mardi à Kinshasa sur les besoins, les défis et les contraintes du processus électoral en RDC. Cette même délégation va aussi rencontrer les acteurs politiques et ceux de la société civile. On écoute Simon-Pierre Nanité-Lamio qui explicite la mission de cette délégation onusienne dans cet extrait proposé par Alain Rung.
C'est une mission en fait d'évaluation des besoins électoraux qui est une mission de routine dans le cadre des Nations Unies. Chaque fois que les Nations Unies reçoivent d'un État membre de l'organisation une demande d'accompagnement en matière électorale, une équipe est déployée pour venir discuter avec les principaux acteurs et essayer d'évaluer ensemble le contexte dans lequel les élections vont se dérouler, les différents défis, les contraintes et aussi ensemble identifier les besoins nécessaires et voir dans quelles conditions les Nations Unies pourraient accompagner l'État membre. Et dans le cas de la RDC, nous avons reçu une requête au mois de décembre, si je ne me trompe pas, de la commission électorale. Donc c'est pour ça que nous sommes venus ici et nous avons discuté avec le président de la CENI et les membres du bureau de la CENI. Et après ça, nous allons rencontrer les autres acteurs au niveau du gouvernement, des partis politiques, la société civile, ainsi que les partenaires internationaux qui sont ici en République démocratique du Congo.
Pour rappel, le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, avait évoqué en février dernier à Kinshasa, avec le président de l'Assemblée nationale et du Sénat, la préparation des prochaines élections et les défis à relever. Il avait aussi évoqué la disponibilité des Nations Unies à répondre aux éventuelles sollicitations de la RDC. 17 500 enfants sortis des groupes armés ont été assistés depuis 2017 en République démocratique du Congo dans les cadres du processus des sorties et de réintégration de cette catégorie d'enfants, a déclaré le représentant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, en RDC, hier mercredi au cours de la conférence de presse des Nations Unies à Kinshasa. Le représentant de l'UNICEF était l'un des invités de cette rencontre du système de l'ONU en RDC avec la presse. Écoutez les propos du patron de l'UNICEF, recueilli par Honoré Missenga.
Au sujet du processus de sortie et de réintégration des enfants associés aux forces et groupes armés, on vient de mentionner ici plusieurs exemples d'enfants qui étaient au sein de l'ADF ou d'autres mouvements et qui ont été maintenant libérés. Depuis 2017, il y a plus de 17 500 enfants qui sont sortis des groupes armés et qui ont été assistés. Ça, ce sont les cas qui sont connus, documentés, sur lesquels l'UNICEF et d'autres partenaires ont travaillé. Sur ces 17 000, près de 10 000 enfants ont bénéficié de programmes de réintégration individuelle et ou collective dans leurs familles et communautés. Lorsqu'on regarde l'année 2021, l'année dernière, plus de 3 300 enfants ont été séparés et pris en charge dû à ces différents conflits.
Plusieurs défis restent encore à relever pour que la sécurité soit effective dans la commune de Béou, dans la ville de Béni. C'est notamment la méfiance entre autorités et administrés, la non-prise en compte des alertes par les services de sécurité et l'impraticabilité de certaines avenues. Ces problèmes ont été évoqués hier mercredi à Béni lors d'un atelier de réflexion visant à identifier les besoins spécifiques de protection pour la sécurisation de cette commune. Activité organisée par Paul Institute dans le cadre du projet Tujé et Pamoja. Guylaine Kassassia pour les détails.
Lors de cet atelier de réflexion, les participants ont analysé différents points qui constituent un obstacle pour la paix. C'est notamment le manque d'un bon cadre de dialogue entre autorités et population, le chômage des jeunes et autres. Face à ces problèmes, les participants recommandent la mise en place d'un cadre permanent d'échange. Papi Kassereka est l'un d'eux.
Les dialogues pour la paix à Béni, pour nous, c'est très primordial. Je pense que les autorités doivent continuer à travailler effectivement pour que la paix arrive. L'autre recommandation, c'est qu'il faut qu'il y ait des réponse rapide du côté des autorités, mais aussi du côté des communautés. J'estime que c'est important que nous puissions voir comment mettre en place les mécanismes d'alerte précoce.
En réaction, l'autorité communale pense que la paix est l'affaire de tous. Les difficultés logistiques constituent le problème majeur, ne permettant pas aux forces de sécurité d'intervenir en temps utile, a fait savoir le commissaire adjoint Jean-Claude Mukabu, bourgmestre adjoint de la commune de Béou, présent à ses assises.
Le dénominateur commun de tous ces ateliers ici, c'est la paix. Pour qu'on arrive à cette paix là, nous devons communier. L'alerte, oui, c'est bien. S'il y a la possibilité, nous allons arriver. Mais néanmoins, la commune n'a pas une mobilité. Dans notre commune, il y a beaucoup de pratiques de la route.
À l'issue de ces échanges, un plan local de protection a été élaboré par les participants. Béni Guylaine Kassassia, Radio Kapi.
Dans la province de la Tchopo, le chef de division provinciale des affaires humanitaires et solidarité sollicite l'intervention des autorités ainsi que des personnes de bonne volonté en faveur des sinistrés des pluies diluviennes du 13 et 14 mars dernier à Kisangani. Les victimes de cette catastrophe naturelle sont complètement démunies. Non seulement qu'elles ont perdu leurs habitations, mais elles ont aussi été dépouillées de leurs biens de valeur lors de secours organisés par la population pendant les sinistres. Par ailleurs, plus de 23 000 déplacés de guerre se trouvant à Bafouassendé et aux environs de Kisangani vivent dans des conditions difficiles. Le point avec Jacques Mkongolé.
Pendant les pluies diluviennes du 13 et 14 mars dernier, 3 personnes avaient perdu la vie et une autre blessée grièvement. En outre, au moins 270 maisons ont été touchées, partiellement ou totalement. Il s'agit là d'un bilan partiel qui concerne 3 communes urbaines, à savoir Mangobo, Kabondo et Tchopo. Selon le chef de division provinciale des affaires humanitaires, le docteur Antoine Lokandila, les autorités ont été saisies à tous les niveaux. Il n'attend que leur intervention.
J'ai écrit à son excellence monsieur le gouverneur depuis le 14 et jusqu'à là, je suis en train d'attendre la disposition que les autorités vont prendre pour aller quand même assister tant soit peu ces sinistrés.
Par ailleurs, le chef de division des affaires humanitaires plaide aussi pour l'assistance des déplacés de guerre venus de Komanda en Ituri. Leur nombre est évalué à plus de 23 000, dont plus de 16 000 à Bafouassende et plus de 10 000 à Kisangani et environ.
Parmi eux, il y a des femmes enceintes, il y a des enfants, il y a aussi des vulnérables, des personnes malades qui sont en train de traverser un moment très très critique de leur vie, sans assistance jusqu'à maintenant.
À noter que l'évaluation dans 3 autres communes se fera dès que les moyens logistiques seront disponibles, précise Antoine Lokandila. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Rendons-nous à Boende, chef-lieu de la province de la Chuapa, où les activités socio-économiques restent paralysées depuis 2 jours. Cela fait suite à l'insécurité qu'entretiennent certains jeunes de la ville après le meurtre du ministre provincial de la Jeunesse. Meurtre qui a eu lieu la nuit de dimanche à lundi dernier. Ces jeunes ont encore incendié un restaurant et blessé grièvement à la machette un mototaximen qu'ils accusent de complicité avec le meurtrier. Des précisions avec Paul-Richard Malengela.
Plusieurs témoins joints ce mercredi à Boende ont dit avoir peur de sortir puisqu'un groupe de jeunes qui tiennent à venger l'assassinat du ministre Gervais Bassambi font la loi, ont-ils affirmé. Mardi soir, ils ont incendié une habitation, puis ils ont attrapé un motard surnommé WhatsApp et qui est ami du meurtrier. Ils l'ont blessé à plusieurs coups de machette. Ce taximan est encore admis à l'hôpital dans un état critique. Ce mercredi, la panique s'est encore emparée de la population. Malgré l'appel des autorités à la reprise des activités, plusieurs écoles n'ont pas ouvert. Les parents ont préféré protéger leurs enfants à la maison. La plupart des boutiques et des marchés ainsi que des lieux de culte ont été également paralysés car ces jeunes en colère se livrent impunément à une sorte de chasse à l'homme selon des témoins. Ceux-ci s'étonnent que les forces de l'ordre ne protègent que des boutiques des expatriés indo-libanais. Notons que jusque-là, le corps du ministre assassiné reste à la morgue de Boende et le meurtrier arrêté à la prison centrale avec 15 autres personnes interpellées pour raison d'enquête. On attend encore l'arrivée à Boende sur ordre du parquet général de cassation, un magistrat du parquet général de Mbandaka pour l'instruction du dossier. Mbandaka pour Chamalengue, la radio Kapi.
Poursuivons la série de reportages consacrés à l'industrie du textile en RDC. La société de textile de Kisangani, Sotexki, dont la province de Latchopo est restée la seule qui résiste encore à la crise qui a emporté plusieurs usines de textile de la RDC. La Sotexki est confrontée à d'énormes difficultés de fonctionnement, notamment à cause de l'obsolescence de son outil de production et le manque des moyens financiers importants pour la relance de sa production. Quel est l'état des lieux actuels de cette usine que les habitants de l'ex-province orientale ont surnommée la Gécamine de la Grande Orientale? Rejoignons Jacques Mkonkole depuis Kisangani.
Créée en 1974, la Sotexki a connu la belle époque sur le marché des tissus en RDC jusque dans les années des guerres de libération. Et pourtant, elle avait survécu au pillage des années 90, rapporte un employé de cette usine. À cette époque, elle comptait entre 2600 et 3000 travailleurs. Aujourd'hui, elle n'utilise plus que 200 personnes. Durant sa période florissante, la Sotexki produisait 1 500 000 mètres linéaires au niveau du tissage. Cette production est tombé progressivement à 216 000 mètres et en 2020 à 65 000 mètres mensuellement, soit 780 000 mètres annuellement, ce qui représente 4,3% de sa capacité initiale, regrette son directeur général, le professeur Glombert Lokomantuono. Selon lui, le marché était concurrentiel. Il faut moderniser la technologie. C'est dans ce sens que sous son leadership, l'usine a pu acquérir sur fonds propres 10 nouvelles machines en Italie pour une enveloppe de plus d'un million de dollars américain. Malheureusement, cet équipement est bloqué sous douane depuis plus de 15 mois, alors que cette commande avait été effectuée dans le cadre des mesures incitatives convenues entre son usine et l'État congolais. S'il faut relancer la production, souligne le DG de la Sotexki, il faut absolument libérer les équipements retenus par la DGDA. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Une demande de mandat d'arrêt à l'encontre de Nelson Mandela, remontant à 1961, sera prochainement mise aux enchères, sauf que son acquéreur ne va pas le posséder en main propre, mais virtuellement. Il aura donc une réplique numérique ainsi qu'un titre de propriété.
L'invité.
L'invité de ce matin s'appelle Crispin Bindoulé. Il est député national de l'Union Sacrée, élu du Nord Kivu et signataire de la motion de défiance contre le ministre de l'Économie. Interrogé par Michel Kifindangoy, Crispin Bindoulé revient sur les motivations des députés de faire partir le ministre Kalumba du gouvernement.
Crispin Bindoulé, bonjour.
Bonjour.
Vous avez initié une motion de défiance contre le ministre de l'économie. Qu'est-ce qui a motivé votre démarche?
Chers journalistes, nous avons signé une motion de défiance contre le ministre de l'économie nationale. Nous sommes 70 députés. Ces 70 m'ont choisi pour porter cette motion. Nous avons été motivés par la hausse des prix sur le marché. Depuis le ministre de l'économie, M. Kalumba, est aux affaires, les prix ne font que galoper. Et c'est comme ça que nous avions trouvé qu'il est incapable de stabiliser le prix. Et nous avons décidé qu'on le mette à côté de la plaque.
Quels sont les cas concrets que vous avez répertoriés qui illustrent votre position aujourd'hui de la hausse des prix sur les marchés?
Les cas concrets, c'est le prix de produits de première nécessité. Si vous prenez le billet d'avion, dont lui-même avait dit non, il a réduit, il a fait, c'est simple. Allez dans des compagnies aériennes, vous allez trouver que le prix a plutôt même doublé. Si vous prenez un avion ici, pour aller à Niziro ou à Kisangani, vous allez trouver que vous arriverez dans les $400. Si vous prenez le prix des chachars sur le marché, vous allez trouver, il avait parlé de $40, aujourd'hui c'est combien? C'est $90 les cartons. Si vous allez vers les Nord Kivu, l'Ituri, Otuele, Bazuele, demandez le prix de poisson aujourd'hui, un poisson tilapia coûte $6 au moment qu'on l'achetait en $0.8. Donc, le ministre n'a pas si stabilisé le prix sur marché des produits de première nécessité. Et c'est pourquoi nous lui demandons de plier bagages et de partir. Et nous espérons que les députés vont voter pour notre motion pour faire partir ce ministre incompétent.
Mais tout de même, il y a eu des efforts du gouvernement, notamment sous l'égide du même ministre, pour la baisse du prix sur le marché. On a vu même des accords au niveau de Namibie pour l'approvisionnement en grande quantité de chinchards.
Ça fait honte lorsqu'un ministre de l'économie va aller signer des accords avec la Namibie au moment que nous avons des lacs le plus poissonnés au monde, les lacs Tanganyika, les lacs Kivu, les lacs Albert. Pourquoi ne pas acheter des bateaux de pêche qui coûtent moins cher? Je vous dis, un bateau de pêche au niveau de la France, même ici à Kinshasa, nous avons une entreprise qui peut en fabriquer. C'est à moins de $200,000. Pourquoi vous allez signer des accords avec la Namibie pour avoir des poissons au moment que nous avons les poissons ici, même ici à Kinshasa, il y a le fleuve qui est ici. Il suffit de placer un bateau de pêche et vous aurez des poissons.
Comment réagissez-vous à ceux qui pensent que votre motion de défiance est un acharnement contre le ministre, une sorte de règlement de compte, d'autant plus qu'aujourd'hui le contexte économique mondial est complexe avec la guerre en Ukraine?
Ce n'est pas l'acharnement. C'est notre constitution qui nous autorise de procéder quand il y a un incompétent, un membre du gouvernement, de procéder par une motion de défiance pour le faire partir. Si la population dit que le prix est stable, nous allons dire, nous allons retirer notre motion. Mais si la population vous dit que la situation des prix, le prix est galopant, nous allons continuer avec cette motion. Donc ce n'est pas l'acharnement. Ce que nous faisons, c'est un droit légitime, c'est dans la constitution et c'est dans notre règlement. Et nous demandons à ces ministres de plier bagages et de partir.
Mais tout de même, c'est un peu excessif, non? Vous pouviez commencer par une question écrite, une question orale avec débat, tout comme une interpellation avant d'arriver à la décision extrême d'une motion de défiance.
Si vous lisez notre règlement intérieur, en son article 214 et 215, on ne dit pas qu'il faut commencer par la question écrite ou question orale. Quand vous trouvez que l'effet est grave, vous procédez à la sanction. Et ici, nous avons trouvé que quelqu'un qui vole tout un peuple, toute la République, le prix, il ne contrôle pas, il n'est pas en mesure de contrôler le prix, de structurer le prix. nous avons trouvé que c'est un fait très grave. Et pas seulement ça. Vous l'avez suivi dans les réseaux sociaux en train de se filmer, en train de distribuer l'argent. Il est en train de distribuer l'argent aux enfants mineurs d'âge, en violation effectivement du code de la bonne conduite d'un agent public de l'État. Tout ça, vous voulez que nous puissions croiser les bras et faire une question orale ou écrite? Non, nous avons procédé à la motion de défiance pour le faire partir.
Crispin Bindoulé, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.